Hier à table, on a repris la discussion sur la Genèse et on se posait la question de savoir si au moment de l'écriture de la Genèse, est-ce qu'elle a été faite en fait, est-ce que Adam et Ève ont vraiment existé ou est-ce que c'est une lecture métaphorique qu'il faut avoir de l'origine de l'homme, sachant que dans les arguments qu'on a utilisés, de toute façon, c'est pas Adam qui a écrit la Genèse. Donc logiquement, ça a été écrit après coup. Voilà, je reformule un petit peu maladroitement parce que je m'attendais pas à le dire.
Je vais donner quelques pistes de réflexion. Par rapport à cette question. Nous, on se pose cette question de cette manière-là parce que nous sommes pétris, et c'est plutôt une bonne chose, de recherche scientifique. Ce qui nous intéresse, enfin beaucoup, c'est une certaine forme de la réalité qui est une réalité historique tangible. La science de l'histoire, c'est quelque chose qui nous a beaucoup travaillé, qui nous a beaucoup permis d'avancer au XXe siècle, aujourd'hui au début du XXIe siècle. Quand on étudie les textes de la Genèse, un certain nombre d'exégètes, d'historiens se sont penchés sur ces textes. Eh bien, comme je l'ai évoqué hier, il y a deux textes. Le premier, un premier récit avec le récit des sept jours, et puis ensuite, juste après le récit des sept jours, démarre le second récit, qui est davantage poétique, avec la création d'Adam, le jardin d'Éden, la création d'Ève, le péché originel et le départ du jardin. Alors, ce sont des récits qui ont été écrits à des époques différentes. Paradoxalement, c'est le second récit, le plus poétique, qui est le plus ancien, d'après les études qui ont été menées. Et le premier récit, et donc le plus récent, ces textes ont été écrits après avoir fait partie de la tradition orale du peuple de Dieu. D'ailleurs, quand en hébreu, ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, eh bien, on n'écrit pas les voyelles. Il n'y a que les sonorités des consonnes qui sont écrites. Ce qui fait que, en fait, encore même, enfin, on ne peut pas lire un texte sans intégrer la tradition orale que nous transmettent forcément nos pères ou voilà. Donc, lire un mot, on est capable de lire que les consonnes si on regarde l'hébreu antique. Et puis, c'est au 7e siècle de notre ère que, étant donné du fait de la diaspora juive, ils ont décidé d'écrire les sonorités, les voyelles, par un certain nombre de symboles autour des lettres de l'hébreu. Voilà. Donc, c'est d'abord une tradition orale qui se transmet, puis qui s'écrit. Par rapport à la tradition orale, alors les deux textes sont différents. Le deuxième texte, celui qui est le plus le plus beau, le plus poétique, enfin le plus poétique, on ne sait pas trop si c'est un auteur ou un groupe d'auteurs. Ce qu'on sait, c'est que ce texte a été mûri, a été travaillé, a été voilà. Mais il a été moins modifié. Donc c'est pour ça aussi qu'il est plus, enfin, qu'on a pu voir des signes d'ancienneté dans ce texte. Il a été moins travaillé, moins mûri, si on peut dire, que le premier texte, la création en sept jours. Celui-là, c'est cette première partie, on appelle ça le récit sacerdotal. Que, en fait, c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui, réfléchissant sur les origines de l'univers, eh bien, nous le croyons par inspiration divine, eh bien, a construit cette cosmologie. Sachant que quand on la compare à celle des peuples qui les environnent, puisque le peuple de Dieu est influencé comme tout peuple par les peuples qui l'environnent, et d'ailleurs qui habitent parmi eux, parce qu'à certaines époques, vous savez, enfin bon, quand ils ont envahi la terre promise, il y a les Cananéens qui vivent parmi eux pendant la conquête a duré 400 ans, donc... Et donc, quand on regarde les cosmologies des peuples environnants, on retrouve des choses beaucoup plus, entre guillemets, habituelles, traditionnelles, par rapport à la mythologie habituelle, enfin la mythologie de l'ensemble des peuples. Alors que là, il y a quand même des choses très, très particulières. Le fait que Dieu est un, et que Dieu parle directement à son peuple, vient auprès de son peuple. Ce qui est assez incroyable, comme pensée, parce qu'en fait, à contrario, la pensée grecque et romaine a vraiment, la philosophie grecque et romaine a beaucoup travaillé la question de Dieu, et de manière assez juste. Dieu est tellement grand, tellement extraordinaire, tellement parfait que sa présence serait complètement écrasante pour les simples êtres que nous sommes. Et Dieu, vraiment le tout autre.